Chapitre 11. Brusque sortie en dehors du bleu. Grâce à l'habileté de deux jeunes filles, un nuage sombre s'était dissipé pour laisser voir l'éclat du soleil. Mais un autre nuage s'amassait au-dessus d'eux, nuage qui, hélas, ne devait pas être aussi facile à disperser. De ces trois familles que la destinée avait réunies, il y en avait déjà deux qui étaient unies par les liens de l'amour. Toutefois, le destin avait décidé qu'un lien d'une autre sorte unirait les Westmacott avec les Hay Denver. Un sentiment d'amitié très cordial avait existé entre l'amiral et la veuve dès le jour où le vieux marin avait amené son pavillon et modifié ses opinions et fait à la commandante du yacht toutes les concessions qu'il avait refusées à la femme férue de réforme. Avec sa nature franche et droite, il respectait chez sa voisine des qualités analogues, et il était né entre elle et lui une amitié plus semblable à celle qui existe entre deux hommes et qui était fondée sur l'estime et la communauté des goûts. « À propos, amiral, » dit Mistress Westmacott, un matin qu'ils allaient ensemble à la gare. « J'apprends que votre garçon fait quelques affaires à la bourse dans les intervalles de sa cour à Miss Walker. » « Oui, madame, et il n'y a personne de son âge qui réussisse aussi bien. Il va de l'avant. Je puis vous le dire, madame. Il y en a qui sont partis en même temps que lui et qui sont en arrière de lui de plusieurs longueurs de pont. Il a touché ses 500 livres l'année dernière et avant qu'il ait 30 ans, il fera les 4 chiffres. Si je vous ai demandé cela, c'est que j'ai moi-même à faire de temps à autre quelques petits placements et que mon courtier actuel est une canaille. Je serais enchantée d'en charger votre fils. » Vous êtes bien bonne, madame. Son associé s'est donné un congé, et Harold serait bien aise de pousser un peu les affaires et de montrer de quoi il est capable. Vous savez, quand le capitaine est à terre, la poupe n'est jamais assez grande pour contenir le lieutenant. Je suppose qu'il prend, comme c'est l'usage, un 0,5%. Je ne sais pas. « Pour sûr, je l'ignore. Je jurerai qu'il fait ce qui est juste et légitime. C'est ce que je paie ordinairement, 10 shillings pour 100 livres. Si vous le voyez avant moi, dites-lui de m'acheter 5 000 livres de la Nouvelle-Zélande. Ces titres sont à 4 en ce moment, mais j'ai quelque idée qu'ils monteront. »« 5 000 ? » s'écria l'amiral en faisant un calcul mental. « Attendez que je vois. Cela fait 25 livres de commission. » Un joli bénéfice pour la journée, sur ma parole. C'est une bien belle commande, madame. Et, puisque je dois la faire à quelqu'un, pourquoi ne la lui confierais-je pas? Je lui en parlerai, et je suis sûre qu'il ne perdra pas de temps. Oh, cela ne presse pas beaucoup. À propos, d'après ce que je vous ai entendu dire à l'instant, il a un associé? Oui, mon garçon est le second associé. Personne est le premier. Je lui ai été présenté il y a des années et il a offert à Harold de débuter avec lui. Naturellement, nous avons dû payer une belle prime. Mistress Westmacott s'était arrêtée et se tenait très raide. Sa physionomie de peau rouge avait pris une expression encore plus dure que d'habitude. « Personne, dit-elle. Jérémy Personne ?»« C'est cela même. »« Alors, il n'y a rien de fait, s'écria-t-elle. » Il ne faut pas vous occuper de ce placement. Très bien, madame. Ils continuèrent à cheminer côte à côte, elle ruminant quelque idée, lui un peu vexé et désappointé de ce caprice et de la commission perdue pour Harold. Amiral, je vais vous expliquer ce que c'est, s'écria-t-elle soudain. Si j'étais à votre place, je retirerais votre fils de cette association. Mais pourquoi, madame? Parce qu'il est allié à un des renards les plus malins, les plus sournois, qu'il y ait dans la cité de Londres tout entière. Jérémy Personne, madame, qu'est-ce que vous pouvez savoir de lui? Il a une bonne réputation. Personne au monde ne connaît Jérémy Personne comme je le connais, amiral. Je vous avertis parce que j'ai de l'amitié pour vous et pour votre fils. Cet homme est un gredin et le mieux que vous puissiez faire, c'est de l'éviter. « Mais tout cela, ce sont des mots, madame, rien de plus. Allez-vous me dire que vous le connaissez mieux que les courtiers et les coulissiers de la cité ?»« L'ami, s'écria Mistress Westmacott, Admettrez-vous que je le connais quand je vous aurai dit que mon nom de jeune fille est Ada Personne et que Jérémie Personne est mon frère unique ?» L'amiral sifflota. « Tiens, s'écria-t-il, maintenant que j'y songe, cette ressemblance... C'est un homme de fer, amiral, un homme sans cœur. Je vous révolterais si j'avais à vous raconter ce que j'ai souffert de mon frère. La fortune paternelle fut partagée également entre nous. Il mangea sa part en 5 ans, et depuis lors, il a tenté de me frustrer de la mienne par tous les tours que peut employer un homme bassement roublard, par de viles flagorneries, par des ficelles légales, par l'intimidation brutale. Il n'est pas une ville nie dont cet homme ne soit capable. Oh, je le connais, mon frère Jérémie, je le connais et me tiens prêt à le recevoir. Voilà qui est tout à fait nouveau pour moi, madame. Sur ma parole, je ne sais qu'en dire. Je vous remercie de m'avoir parlé aussi franchement. D'après ce que vous m'apprenez, c'est un individu avec lequel il ne fait pas bon s'embarquer. Peut-être Harold fera-t-il bien de couper la mare. Qu'il ne perde pas un jour. Eh bien, nous en parlerons, vous pouvez en être certaine. Mais nous voici à la gare. Le temps de vous voir installée en voiture et je retourne à la maison pour voir ce que dira ma femme à ce sujet. Comme il cheminait dans la direction de sa demeure, pensif et perplexe, il fut surpris de s'entendre appeler à haute voix et de voir Harold accourir à sa poursuite du haut de la route. « Oui, papa, s'écria-t-il, j'arrive à l'instant de la ville et la première chose que j'ai aperçue, c'est votre dos pendant que vous en alliez. Mais vous êtes si bon marcheur qu'il m'a fallu courir pour vous rattraper. » Le sourire de plaisir de l'amiral s'était épanoui sur sa figure en des milliers de rides. « Vous voilà revenu de bonne heure aujourd'hui, » dit-il. « Oui, je tenais à vous consulter. » « Rien de dérangé ?»« Oh non, un simple désagrément. » « De quoi s'agit-il ? » « Combien avez-vous à votre compte personnel ?» « Une belle somme, environ 800 livres, je crois. » « Oh, la moitié suffira. C'était bien imprévoyant de la part de personne. »« Quoi donc ?»« Eh bien, voici, papa. Quand il est parti pour prendre un petit congé au Havre, il m'a laissé les créances à payer et le reste. Il m'a dit qu'il y avait en banque les fonds qu'il fallait pour faire face à tous les paiements. Mardi, j'ai eu l'occasion de payer 2 chèques, l'un de 80 livres, l'autre de 120. » Et voici que la banque me les renvoie avec une note indiquant que nous avons déjà dépassé notre actif de quelques 100 livres. L'amiral prit un air très grave. « Qu'est-ce que cela signifie ? » demanda-t-il. « Oh, cela peut aisément s'arranger. Vous savez que personne place tout le capital disponible et ne garde en banque que la plus petite marge possible. Tout de même, c'était bien mal de sa part de m'exposer au risque de voir revenir un de mes chèques. Je lui ai écrit pour lui demander l'autorisation de vendre quelques titres et j'ai envoyé à la banque des explications par écrit. Mais en attendant, je serai obligé d'émettre d'autres chèques. Aussi ferais-je bien d'opérer un transfert d'une partie de notre avoir pour y faire face. C'est très bien, mon garçon. Tout ce qui est à moi est à vous. Mais le croiriez-vous, savez-vous qui est ce personne ? C'est le frère de Mistress Westmacott. Vraiment ? Voilà une chose bien singulière. Eh bien, maintenant que vous me le dites, je trouve une ressemblance. Ils ont tous deux la même coupe dure de physionomie. Elle m'a averti d'être en garde contre lui. Elle dit qu'il n'y a pas dans Londres de pire corsaire que lui. J'espère que tout va bien, mon garçon, et que nous ne nous trouverons pas dans des eaux agitées. Harold avait légèrement pâli en apprenant ce que Mistress Westmacott pensait de son associé. Ces paroles donnaient une forme et un corps à certaines craintes vagues, à des soupçons qu'il éprouvait et qu'il avait rejetés bien loin, parce qu'il les trouvait trop monstrueux, trop fantaisistes pour les admettre. « Papa, c'est un homme bien connu à la cité, » dit-il. « Naturellement, il est connu, naturellement, c'est ce que je lui ai dit. S'il y avait quelque chose de louche en lui, on l'aurait découvert. » Mais heureusement, vous savez, il n'y a rien d'aussi âpre qu'une brouille de famille. Toutefois, vous avez très bien fait d'écrire au sujet de cette affaire, car il est bon d'avoir toutes choses en bon ordre à son bord. Mais la lettre d'Harold à son associé s'était croisée avec une lettre écrite par son associé à Harold. Elle se trouva le lendemain matin sur la table. Au déjeuner, en la lisant, il sentit son cœur se briser. Il bondit de sa chaise, la figure pâle, les yeux fixes. « Mon garçon, mon garçon !»« Je suis ruiné, mère, ruiné !» Il restait immobile, regardant fixement devant lui, pendant que la lettre voltigeait et retombait sur le tapis. Alors il retomba sur sa chaise et il se cacha la figure dans les mains. Un instant après, sa mère l'entourait de ses bras, pendant que l'amiral, les doigts tremblants, ramassait la lettre et ajustait son lorgnon pour la lire. Elle était ainsi conçue. « Mon cher Denver, au moment où cette lettre vous parviendra, je serai hors de votre portée, à l'abri de quiconque pourrait désirer une entrevue. Inutile de vous mettre à ma recherche, car je vous assure que cette lettre a été mise à la poste par un ami, et que, si vous essayez de me découvrir, ce sera peine perdue. Je suis fâché de vous laisser dans une situation aussi serrée, mais il faut que l'un ou l'autre de nous s'y trouve, et, somme toute, je vous ai donné la préférence. Vous ne trouverez rien à la banque, et il y a 13 000 livres de disparus sans justification. Je serai assez porté à croire que le meilleur parti à prendre pour vous est de réaliser tout ce que vous pourrez convertir en espèces et d'imiter l'exemple de votre associé. En agissant sans retard, vous pouvez vous tirer d'affaire. Dans le cas contraire, non seulement vous aurez à fermer boutique, mais encore, je crains qu'on ne puisse regarder l'argent manquant comme une simple dette et que vous ne soyez tenu pour légalement responsable autant que moi. Suivez ce conseil d'amis et partez pour l'Amérique. Un jeune homme qui a de la cervelle peut toujours se tirer d'affaire autre part qu'ici et vous survivrez bien à ce petit malheur. C'est une leçon que vous n'aurez pas payée trop cher si elle vous apprend à ne jamais agir de confiance en affaires et à insister pour vous renseigner exactement sur ce que fait votre associé, fût-il le plus ancien de la firme. Votre très dévoué, Jérémy Pearson. « Juste ciel !» s'écria l'amiral. « Il a pris la fuite. »« En me laissant dans la situation d'un banqueroutier et d'un voleur. »« Non, non, Harold !» sanglota la mère. « Tout s'arrangera. Peu importe l'argent. »« L'argent, mère, mais il s'agit de mon honneur. »« Le petit a raison, c'est de son honneur et de mon honneur qu'il s'agit, car son honneur est le mien. » C'est une rude épreuve, mère, alors que nous pensions avoir laissé derrière nous, dans le passé, toutes les difficultés de notre existence, mais nous la supporterons comme nous en avons supporté d'autres. Il tendit sa main noueuse et les deux vieux s'assirent, penchant leurs têtes grises, leurs doigts entrelacés et se donnant de la force par leur amour et leur sympathie réciproque. « Nous étions trop heureux, » soupira-t-elle. « Mais c'est la volonté de Dieu, mère. »« Et pourtant, elle est cruelle à supporter. J'aurais pu perdre tout, maison, argent, mon rang, je l'aurais supporté. Mais à mon âge, mon honneur, l'honneur d'un amiral de la flotte. » »«
Il ne peut être question d'honneur perdu, John, quand on n'a rien fait de déshonorant. Qu'avez-vous fait? Qu'a fait Harold? L'honneur n'est pas en question. »
Le vieillard secoua la tête, mais Harold avait déjà repris son sang-froid d'homme pratique qu'il avait abandonné un instant en présence de ce coup terrible. « La mère a raison, papa, dit-il. Dieu sait que c'est assez cruel, mais nous ne devons pas envisager les choses sous un aspect trop sombre. Après tout, cette insolente lettre est à elle seule la preuve que je ne suis pour rien dans les projets du misérable coquin qu'il a écrite. » On peut croire qu'elle a été concertée d'avance. On ne peut pas le croire. Toute ma vie proteste contre cette idée. On ne saurait me regarder en face en l'exprimant.
Non, mon garçon, pour peu qu'on ait des yeux dans la tête, s'écria l'amiral, reprenant courage à la vue de cette physionomie aux yeux étincelants de bravoure et de défi. Nous avons la lettre et nous avons notre réputation. Avec ces deux choses, nous nous dirigerons sans péril. J'ai commis une faute dès le début en vous choisissant pour associer un requin de terre ferme. Et Dieu me pardonne, moi qui croyais vous avoir facilité vos débuts.
Cher papa, comment auriez-vous pu savoir?
Comme il le dit dans sa lettre, il m'a donné une leçon. Mais il était bien plus âgé, bien plus expérimenté, et il m'était difficile de demander à examiner ses comptes. Mais nous n'avons pas de temps à perdre, il faut que je me rende à la cité. Qu'est-ce que vous comptez faire? Ce que ferait un honnête homme. J'écrirai à tous nos clients et créanciers. Je les réunirai. Je leur exposerai toute la situation. Je leur lirai la lettre et me remettrai entièrement entre leurs mains. C'est cela, mon garçon, vergue contre vergue, et que cela soit réglé. Il faut que je parte tout de suite. Il prit son pardessus et son chapeau. Mais j'ai encore 10 minutes avant de prendre le train. Il y a une petite chose que je dois faire avant de partir. À travers les longues vitres de la porte-fenêtre, il avait aperçu, comme dans un éclair, une blouse blanche et un chapeau de paille sur la pelouse du tennis. Clara venait souvent l'y trouver le matin pour échanger quelques mots avec lui avant qu'il courût à la cité. Il sortit, marchant maintenant du pas rapide et ferme d'un homme qui a pris une résolution importante, mais il avait les traits tirés, les lèvres pâles. « Clara, dit-il en la voyant venir à lui avec des mots de bienvenue, je suis désolé de vous apporter de mauvaises nouvelles, mais les choses ont mal tourné à la cité et je crois qu'il est de mon devoir de vous délier de votre engagement. » Clara le regarda fixement de ses grands yeux noirs pleins d'interrogations et elle devint aussi pâle que lui. « En quoi la cité peut-elle avoir de l'influence sur vous et moi, Harold ?»« Il s'agit de déshonneur et je ne puis vous demander d'en prendre votre part. »« Déshonneur, la perte de méprisables pièces d'or et d'argent ?»« Oh, Clara, s'il n'y avait que cela !» Nous pourrions être bien plus heureux dans un petit cottage à la campagne qu'avec toutes les richesses de la cité. La pauvreté ne saurait m'atteindre au cœur comme je l'ai été ce matin. Tenez, Clara, il n'y a que 20 minutes que j'ai la lettre, et il me semble que c'est déjà chose du passé, une vieille chose qui est arrivée il y a bien longtemps, quelque nuage noir qui s'est placé devant tout le bonheur, toute la paix d'autrefois. Mais alors, qu'est-ce donc ? Que craignez-vous de pire que la pauvreté? C'est d'avoir des dettes que je serai hors d'état de payer. C'est d'être affiché à la bourse et déclaré banqueroutier. C'est de savoir que les gens ont de justes réclamations à me faire et de me sentir incapable de soutenir leurs regards. N'est-ce pas pire que la pauvreté? Oui, Harold, c'est 1000 fois pire. Mais tout cela, on peut l'arranger. N'y a-t-il rien de plus? Mon associé s'est enfui en me laissant la responsabilité de grosses dettes et dans une situation telle qu'on a le droit de me sommer de produire au moins une partie de l'argent qui manque. C'est de l'argent qui lui a été confié pour être placé et il l'a dérobé. Moi, son associé, j'en reste responsable. J'ai attiré la misère sur tous ceux que j'aime, sur mon père, sur ma mère. Mais vous, du moins, vous ne vous trouverez pas sous cette ombre. Vous êtes libre, Clara. Il n'y a plus de lien entre nous. Il faut être deux pour contracter un pareil lien, Harold, dit-elle en souriant et en lui passant la main sous le bras. Il faut être deux pour le faire et deux aussi pour le rompre. Est-ce de cette façon-là qu'on fait les affaires de la cité, monsieur? Et admettons qu'un homme puisse, par un simple acte de sa volonté, déchirer ses engagements? Vous me regardez comme toujours liée, Clara. Il n'est pas de créancier plus inexorable que moi, Harold. Jamais, jamais, vous ne serez affranchi de ce lien. Mais je suis ruiné, toute ma vie est flétrie. Aussi donc, vous voulez aussi ma ruine et que mon existence soit flétrie? Non, non, monsieur, vous ne vous en tirerez pas aussi facilement. Mais parlons sérieusement, Harold, vous m'auriez blessé si la chose n'était pas aussi absurde. Croyez-vous que l'amour d'une femme est comme cette ombrelle que je tiens à la main, une chose qui n'est bonne que quand le soleil brille et qui est inutile lorsque les vents soufflent et que les nuages s'épaississent? Je ne voudrais pas vous entraîner dans ma chute, Clara. Ne ferais-je pas une chute profonde si je vous abandonnais à un moment pareil? C'est seulement maintenant que je puis vous être utile, vous aider, vous soutenir. Vous avez toujours été si énergique, si au-dessus de moi. Vous êtes encore fort, mais maintenant, à deux, nous serons plus forts encore. En outre, monsieur, vous ne vous doutez pas combien je m'entends aux affaires. Papa le dit et il s'y connaît. »
Harold fit un effort pour parler, mais il avait le cœur trop plein. Il ne put que serrer la main blanche qui se reployait autour de sa manche. Ils firent ainsi quelques pas, côte à côte, elle causant gaiement et lançant quelques petits rayons de courage dans la sombre atmosphère dont il était enveloppé. En l'écoutant, il croyait entendre Ida et non sa sœur, dans la personne posée, pleine de réserve, qui bavardait avec lui.
« Cela s'arrangera bientôt, dit-elle, et alors nous nous trouverons bien sots. Naturellement, tous les hommes d'affaires ont ces petites crises de hausse et de baisse. Tenez, de tous ceux que vous rencontrez à la bourse, je crois qu'il n'y en a pas un qui n'ait quelque histoire semblable à raconter. Si les choses allaient toujours sans accroc, naturellement, tout le monde se ferait boursier et vous seriez obligé de tenir vos réunions dans Hyde Park. Combien vous faut-il ?
Plus que je n'arriverai jamais à trouver, rien de moins que 13 000 livres. » La figure de Clara s'allongea à l'énoncé de cette somme.
« Qu'est-ce que vous comptez faire ?
Je vais tout de suite aller à la cité et je demanderai à tous nos créanciers de venir me trouver demain. Je leur lirai la lettre de personne et je me mettrai entre leurs mains. »
« Et eux, que feront-ils ?
Que peuvent-ils faire ? Ils enverront des sommations pour se faire rembourser et la maison sera déclarée en état de banqueroute. »
« Et la réunion aura lieu demain ?
Voulez-vous que je vous donne mon avis ?
Quel est-il, Clara ?
C'est de leur demander un délai de quelques jours. Qui sait si les choses ne prendront pas une nouvelle tournure ?
Quelle tournure peuvent-elles prendre ? Je n'ai aucun moyen de trouver l'argent. »
« Gagnons quelques jours. »
Oh, nous les aurons par la marche même des choses. Les formalités légales prendront déjà un peu de temps. Mais il faut que je parte, Clara. Il ne faut pas que j'aie l'air de me dérober. Maintenant, ma place est dans les bureaux. »
Oui, mon cher, vous avez raison. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Je serai ici au désert, mais pendant tout le jour, je serai en esprit près de votre bureau de Throgmorton Street, et si vous venez à être triste, vous entendrez un léger murmure à votre oreille et vous saurez qu'il y a un de vos clients que vous ne pouvez pas écarter, tant que nous serons en vie, mon cher. »